Salut à tous! Petite annonce avant de rentrer dans cet épisode de Vue du Banc. Pour vous rappeler qu'à l'inscription sur PMU.fr, notre partenaire, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € offerts avec le code VDB. Et n'oubliez pas de jouer responsable.
Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12e épisode de la saison 9 de Vue du Banc. On va parler aujourd'hui de tirage au sort, de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Je suis accompagné de Christophe Cuchely. Salut Christophe.
Salut Raphaël.
Et de Florent Tunis. Salut Florent.
Salut Raphaël.
Christophe qui, il faut le préciser, enregistre son deuxième podcast de la journée et on est passé tout près du troisième podcast de la journée puisque l'UEFA a organisé un tirage au sort un peu fantasque, un peu raté, puisque se sont trompés au moment de mettre les boules, très tôt dans le tirage d'ailleurs, juste après le tirage au sort de Real Benfica, et c'était au moment du tirage entre Villarreal et un des deux Manchester, sauf que le mauvais Manchester est sorti, Manchester United, qui ne devait pas sortir, puisque Villarreal était dans la même poule. Gros imbroglio, qu'est-ce que va faire l'UEFA, qu'est-ce que vont faire les clubs? Évidemment, les clubs qui avaient pris des gros ont demandé à ce que ce soit retiré. Le Real qui avait pris Benfica ne voulait pas du tout être retiré à nouveau. À 15h, l'UEFA a organisé un nouveau tirage, et on a donc eu ces huitièmes de finale-là, et cette fois, ce sont les bons. Ce ne sont pas les premiers qui ont été tirés. Donc Salzbourg va recevoir le Bayern, le Sporting Lisbonne va recevoir Manchester City, Benfica va jouer contre l'Ajax, Chelsea va jouer contre Lille, Lille est l'équipe la plus malchanceuse de la journée, l'Atlético va jouer contre Manchester United, Villarreal contre la Juve finalement, Inter-Liverpool, comme en 2008, et Paris-Real Madrid. Et c'est d'ailleurs par ce match qu'on va démarrer, Florent, puisque c'est celui qui nous intéresse le plus, nous en tant que Français, peut-être. Alors, mais Christophe, tu n'es pas Français, il faut préciser, tu es un citoyen du monde.
Non, mais surtout que je suis lillois, donc moi je m'intéresse plus au match de Lille.
Oui, mais je dis, c'était un nous global. Non, mais c'est le match qu'on va sans doute le plus traiter parce que c'est le plus équilibré en théorie. Puisque Lille-Chelsea, Lille c'est clairement le pire tirage, on y reviendra après. Donc Paris-Real Madrid, on précise que le premier tirage pour ceux qui sont passés à côté de cette journée, c'était Paris-Manchester United. Comme il y a quelques années quand Tuchel avait payé le prix de cette double confrontation. Paris-Real Madrid, deux effectifs où il y a des stars, mais deux effectifs qui ne sont pas du tout construits de la même façon. Flo, comment tu vois cette rencontre-là, un petit peu à chaud, ça fait 2 heures que le tirage s'est terminé. Comment t'imagines cette confrontation entre un Paris largement leader de son championnat, mais pas convaincant, et un Real qui l'est de plus en plus, et qui a d'ailleurs battu l'Atlético lors de la dernière journée pour prendre un sacré matelas en Liga?
Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est deux équipes qui vivent un petit peu les mêmes championnats. Après, moi, personnellement, j'ai très peu vu le Real cette saison, à part des bribes en Ligue des Champions, parce que je crois qu'ils avaient eu un match ou deux à 18h45 et j'avais pu les apercevoir. Il me semble que c'était cette saison, si ça se trouve j'ai faux, mais en tout cas j'avais vu quelques-unes de leurs sorties en Ligue des Champions et j'ai beaucoup de mal à me projeter pour l'instant et à m'enthousiasmer parce que t'as deux équipes, comme tu l'as dit, qui survolent un petit peu leur championnat et qui donne pas l'impression d'avoir à forcer en championnat. On en a parlé, Raphaël, dans les grandes affiches avec le PSG face à Monaco. Et j'ai l'impression que le Real a le même genre de matelas dans ses matchs en Liga, où même sans être forcément flamboyant, ils ont toujours un Benzema ou un Vinicius qui vont mettre le but ou qui vont les sortir d'un mauvais pas. Alors, si j'ai bien suivi, Modric a fait un très grand match dimanche soir,
oui,
contre l'Atlético. Peut-être que d'ici février, on aura un Real à nouveau en ordre de marche. Mais ce qui peut être intéressant, par contre, c'est Sergio Ramos. Il va y avoir un sacré storytelling, je pense, autour de lui.
Oh, sur plein de choses. Hein,
sur plein de choses. C'est-à-dire déjà le fait de pouvoir enchaîner les matchs à Paris. Est-ce qu'il sera prêt en février? Et surtout, est-ce qu'il est capable d'apporter à Paris ce qu'il a apporté pendant des années au Real dans ce genre de confrontation, justement? Donc là, il y aura une vraie histoire autour de ça. Après, d'ici 2-3 mois, pour ces deux équipes-là, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent encore bouger, je pense, dans les formes de chacun. Il y a quand même des deux côtés, des équipes et surtout des joueurs qui ont l'habitude d'être un petit peu tranquilles en championnat et d'élever le niveau quand t'arrives en Ligue des Champions. Donc, à part les questions de storytelling, je pense que c'est quand même assez difficile de se projeter sur ce match-là 2 mois à l'avance.
Oui, pour les dramaturges, il y a Ramos, il y a Pochettino
et Messi qui retrouve le Real.
Pochettino qui a longtemps été, et plusieurs fois d'ailleurs, annoncé au Real, parce qu'il a dit qu'il n'entraînerait jamais le Barça vu qu'il était à l'Espagnol, mais que le Real était une possibilité. Il y a Mbappé, il y a Ancelotti, il y a Keylor Navas.
C'est vrai qu'il y a Mbappé aussi.
Énormément de monde. Il y a eu un Paris Real aussi il y a quelques années. Bah, la première saison de Neymar au PSG, ils sont sortis par le Real Madrid. Oui. La saison de Unai Emery. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Christophe, Flo avait du mal à se situer sur le niveau des deux équipes. Alors en consultant ma riche timeline pleine de gens pertinents, il y avait à la fois des gens très sûrs que le Real serait meilleur et des gens très sûrs que Paris serait favori. Est-ce qu'il y a un côté vers lequel tu penches plus, toi qui as vu le Real plus que nous cette saison ?
Bah, le souci, c'est qu'il n'y a aucune des deux équipes qui est vraiment ultra, ultra fonctionnelle sur le plan collectif. Maintenant, j'ai l'impression quand même que le Real se satisfait plus de la situation que le PSG. Déjà, mine de rien, parce que le PSG, a priori, il y a un tel matelas sur le reste en championnat de France que du coup est attendu plus que simplement les résultats, alors que pour le Real, pas forcément. C'est-à-dire que le Real est autant d'avance en championnat, parce que là, on enregistre, il y a 8 points sur Séville, qui a un match en moins. Voilà, ça ferait 5 à minima, et donc l'Atlético a un match en moins aussi, mais c'est 13 points. Donc globalement, t'es pas loin d'avoir plié le championnat. Rien que le fait d'avoir ça, c'est déjà beau, parce que le Real est loin de gagner le championnat chaque année.
Où est le Barça ?
Le Barça, bon, c'est pour la forme, hein, mais le Barça a 24 points, donc contre 42 au Real, ce qui fait 18 points, moins un match, donc potentiellement moins 15. Mais pour l'anecdote, le Barça est coincé entre Valence et l'Espagnol, et derrière le Rayo Vallecano, par exemple. Et même en gagnant son match en retard, le Barça ne reviendrait que...
On en reparlera un peu du Barça tout à l'heure, peut-être avec le tirage au sort de la Ligue Europa, d'ailleurs, des barrages.
Oui, non, mais voilà. Mais tout ça pour dire que, du coup, le fait que le Real gagne parfois sans briller est moins gênant que le fait que le PSG gagne sans briller. Aussi parce que, mine de rien, les effectifs sont pas 100% les mêmes. T'as un peu plus d'étoiles du côté parisien. Donc ça, c'est vraiment pour, je pense, l'image que ça laisse. Après, pour le côté effectif et collectif, ultra fonctionnel, Paris monte parfois très haut, sans doute plus haut, je pense, que le Real, même si ça se joue pas énormément de choses. Hein. Mais le PSG peut quand même atteindre des hauteurs assez sympas. Par contre, ça descend beaucoup plus bas. C'est-à-dire que le Real, alors c'est pas, il y a des moments, notamment contre le Shakhtar en Ligue des Champions, là le retour, c'était franchement pas flamboyant. Mais de manière générale, il me donne quand même l'impression cette équipe d'être vraiment une équipe Ancelotti. C'est-à-dire, parce qu'Ancelotti, voilà, je reste persuadé, et de plus en plus que depuis quelques années, c'est un entraîneur qui va te faire vraiment, qui ne va pas se faire sous-performer forcément un collectif avec des bonnes individualités, mais qui va pas forcément surperformer. C'est-à-dire que tu lui donnes Everton, qui est genre le 7e ou 8e effectif, il va faire à cette place-là. Tu lui donnes Naples, il va pas du tout faire le même boulot que Sarri. Le Bayern, il va gagner le championnat à minima, mais par contre, le Real, les individualités vont performer. Donc ça, au moins, il sait faire. Et je pense que globalement, autant le PSG, tu peux être vraiment incertain sur est-ce que tout va s'imbriquer, tout va s'emboîter. Autant je pense que le Real, la version qu'on a actuellement, c'est la version qu'on aura dans 2 mois. Et ça va uniquement dépendre en fait des individualités. Hein. Parce que 13 buts pour Benzema, 10 pour Vinicius, 5 pour Asensio. Ce qui fait quand même 28 sur les 39 inscrits. Sachant que Benzema a 7 passes décisives et Vinicius en a 4. Donc c'est-à-dire que ça se recoupe pas mal.
Et si Asensio, Benzema... j'ai l'impression que les buts sont arrivés très récemment aussi. Là, il est sur une bonne lancée depuis quelques semaines.
Ouais, c'est Marco. Ça. Bon, globalement, c'est l'équipe de Benzema et Vinicius. Hein. Mais je pense sincèrement que le plan du Real, ça va être... on est globalement solide. Eder Militao a quand même franchi un cap et à la base devient un très bon central. Courtois est toujours fiable dans les buts. Donc en gros, t'as ce trident des deux centraux du gardien qui sont fiables. T'as Benzema, Vinicius qui vont aller marquer des buts de l'autre côté. T'as évidemment des bons milieux, mais j'ai envie de te dire, si Benzema est pas en forme et Vinicius non plus, je vois aucune chance au Real. Par contre, s'ils sont en forme, je suis pas loin de les voir favoris, mais j'ai l'impression que la variable est quand même moins grande que pour le PSG, où franchement, ouais, c'est un peu tout ou rien d'une fois à l'autre.
Mais tu vois, je crois beaucoup plus, je demanderai à Flo son avis après, en le milieu de terrain du Real Madrid dans un huitième de finale pour contrôler un match ou le gérer, que dans ce que peut faire le PSG en gestion d'un match, sachant que 90 minutes en Ligue 1, déjà, ils n'arrivent pas à les tenir. 180 sur un aller-retour contre une équipe comme le Real, où Modric et Kroos, malgré le temps qui passe, arrivent toujours à contrôler des rencontres et à maintenir un rythme, ou d'ailleurs le ralentir s'il le faut. Si les trois de devant sont dans la même forme qu'actuellement, je pense que le Real quand même part avec une longueur d'avance, mais en effet, tu as ces 2 mois de latence. tu sais pas trop où en seront les deux équipes, mais je crois, disons que si le match est à 6 sur 10 des deux côtés, je pense que le Real est meilleur. Après, Flo, peut-être que le PSG a ce don aussi pour sortir ses meilleurs matchs et ses matchs aussi les plus heureux parfois en Ligue des Champions, comme contre le Bayern où ils avaient concédé 1000 occasions mais réussi à s'en sortir.
Ouais, oui, t'as toujours cette variable-là. D'ailleurs, le Real en championnat a quand même pas mal de réussite. Si je prends les expected goals, c'est Christophe parlait de surperformance et d'individualité. Courtois, le Real a pris 15 buts pour 19 XG concédés, ce qu'il aimait pas parmi les meilleures défenses d'ailleurs de Liga, loin de là. Quand l'Atlético est à 12, la Real Sociedad à 15 par exemple, ou le FC Séville à 17. Voilà, le Real est derrière ces équipes-là, ils sont au niveau du Betis à peu près. Et en attaque, Benzema surperforme devant le but, Vinicius a énormément progressé et surperforme aussi devant le but depuis le début de la saison en Liga, donc il y a aussi ce facteur-là, mais bon, d'un côté comme de l'autre, de toute façon, on a des équipes qui sont capables de surperformer, mais enfin des joueurs surtout qui sont capables de surperformer. Après, comme tu le dis, dans deux mois, moi je reste attentif, même si j'ai des doutes sur la viabilité du projet de ce qu'on a vu face à Monaco, c'est-à-dire Verratti en sentinelle. Autant avec le ballon, je suis convaincu, autant en garant de l'équilibre collectif de l'équipe et en premier contre-presseur, j'ai un peu de mal à imaginer un Verratti faire du Fernandinho ou faire du Rodri.
Mais est-ce que ce sera pas Paredes dans ce rôle et Verratti avec un troisième milieu?
Ouais, mais je suis aussi perplexe pour Paredes pour tenir ce rôle.
Oui, mais après, les autres options sont vite, tu vois.
Non, mais il y en a pas beaucoup, mais après, le match se jouera peut-être pas là. Mais est-ce qu'un Verratti associé et encadré par Gay et Wijnaldum, si tu testes ce milieu-là pendant deux mois, c'est pas justement un milieu qui est capable vraiment d'aller ennuyer Kroos et Modric dans leur gestion du match?
Comme Gay l'avait fait au Parc des Princes d'ailleurs, il y a un an et demi ou quelque chose comme ça.
Ouais, sur un match de poule, c'était, ouais, il avait mangé Kroos ce jour-là, je crois. C'était ça l'histoire. Donc il y a ça, il y a cette question qui peut se poser. Après, côté Paris, il y a aussi la question du qu'est-ce qui va se passer pour le PSG pendant les deux mois qui viennent où Neymar n'est pas là et où tu peux voir des choses testées ça et là, des bribes de choses qui peuvent être intéressantes qu'on a aperçues un petit peu contre Monaco. On en a parlé là aussi sur Copa Arena. Donc voilà, c'est vrai que peut-être on sait déjà, je pense que globalement aujourd'hui, sauf blessure, tu connais le 11 du Real qui débutera ce match dans les grandes lignes. Mais le 11 du PSG, je pense qu'il y a pas mal de variables qui peuvent énormément bouger. Et pour moi, la question aujourd'hui, c'est dans deux mois, est-ce que à quelques semaines de la rencontre ou à quelques jours de la rencontre, il n'y a pas une question qui se posera, c'est ah tiens, Neymar sera apte, mais est-ce qu'il faut qu'il débute la rencontre?
Je suis
persuadé qu'on va arriver sur une histoire comme ça à un moment donné.
Surtout quand je l'ai oublié dans la partie dramaturgie storytelling, mais un ancien du Real qui a toujours été bon contre le Real, c'est Di Maria, qui a toujours fait des très bons matchs quand le PSG a joué à la Real Madrid. D'ailleurs, quand le PSG gagne 3-0, il me semble qu'il met des beaux buts. Et si tu joues avec deux mois avec lui, en sachant qu'il est capable de t'apporter cette occupation du terrain dont on a parlé dans les grandes affiches en jouant sur le côté droit, et aussi de combiner avec ses partenaires, est-ce qu'au moment où Neymar revient, tu gères Di Maria après deux mois de jeu ensemble?
Ça, c'est... Après, on verra les performances du PSG pendant les deux mois, mais je suis persuadé qu'il va y avoir à un moment donné ce débat qui va se poser. Et ce serait un petit peu cocasse qu'un Di Maria qui réintègre un milieu de terrain, mais ce ne sera pas un milieu à 3, ce sera un milieu à 4, a priori, sur ce qu'on a aperçu du PSG. Ouais. Mais qu'un Di Maria milieu retrouve Ancelotti, qu'il avait mis dans un rôle, sur cette ligne-là, mais pas dans le même rôle, il y a quelques années.
Christophe, un dernier mot sur le Real, ou sur ce match d'ailleurs dans son ensemble?
Pour dire que le Real est quand même une bête particulière cette saison. C'est une anomalie, mais pour un club de ce niveau-là, c'est un truc pas hyper fréquent non plus. C'est que c'est une formation qui est quand même assez cliente du bloc médian, voire du bloc bas. Alors, elle fait évidemment pas que ça, mais tu regardes les statistiques de pression, notamment, alors évidemment, tu regardes les matchs, hein, mais je veux dire, j'ai corroboré ça avec les stats de pression.
D'ailleurs, je te laisse continuer, mais ça fait deux équipes comme ça, du coup, Christophe, Real et PSG.
Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que du coup, c'est là aussi où c'est un petit peu difficile de se projeter 100%, parce que c'est compliqué d'identifier un petit peu les zones clés. C'est-à-dire que tu joues genre Chelsea, tu joues City, tu sais très bien que ces équipes-là vont vouloir confisquer la possession, vont s'installer dans ton camp. Tu dis, ah, va falloir trouver qui va relancer sous pression, etc. Là, je veux dire, la question de la relance sous pression, t'es pas sûr qu'elle sera hyper prégnante. Alors évidemment, Il y a des moments où le Real va attaquer, va essayer de récupérer la balle. Mais je veux dire, le Real, sur quasiment toutes les statistiques de pressing, ils sont à peu près en milieu de tableau, voilà, entre 7 et 10. Et cette équipe-là, encore une fois, peut refuser un peu le jeu, façon de parler, se rapprocher un petit peu par certains aspects de l'Atlético. Elle est quand même assez... elle n'est pas du tout dogmatique. Donc du coup, ça donne aussi un truc assez difficile à lire et qui empêche de... Je pense qu'en fait, Paris devra mettre sa meilleure équipe, mais pas forcément s'adapter aux forces de l'adversaire. Quoi. Je vois pas un truc où tu dis la configuration de l'adversaire fait que ça nous oblige à mettre tel ou tel joueur. Quoi.
Et le Real a souvent mené au score, ce qui les a bien aidés aussi sur cette aussi, configuration oui, de match. D'ailleurs, je crois que c'est Asensio qui en parlait après la victoire contre l'Atlético, où il disait, Ancelotti nous a dit, quand on ouvre le score, n'hésitez pas à jouer plus bas, à reculer pour qu'on se serve des espaces, évidemment, pour des joueurs comme lui, Asensio, et comme Vinicius, qui peuvent s'éclater dans ces zones-là. Et c'est pas forcément des joueurs que le Real avait sur les 3-4 années précédentes quand Bale avait disparu et que Ronaldo avait décliné physiquement. Donc ça leur fait, c'est vrai, de nouvelles possibilités, mais le PSG peut jouer de la même façon. Donc c'est peut-être un match où les deux équipes vont chercher à ne pas contrôler le ballon et à se leur filer pour mieux se contre-attaquer. Enfin, on verra d'ailleurs les dates des matchs, si je les trouve, je vais réussir à les trouver. Tu les vas dire, Christophe, dis-nous la date du match aller Real Paris, ou Paris Real plutôt.
C'est le 15 février et retour le 8 mars. Très bien. En fait, c'est 15 et 16, en fait, c'est pas encore
décidé. Ils ont pas fixé ? D'accord.
Non. Mais en gros, ouais, c'est 15 ou 16 et 8 ou 9 pour tous les 8e.
Ouais. Ouais, justement, la stat sur les ouvertures du score, le Real a ouvert le score 11 fois en 17 matchs et ils ont 10 victoires et un nul sur la période. Et quand ils ont encaissé l'ouverture du score, ils ont 3 victoires et une défaite. Donc, je sais plus quand ce truc c'était, mais là, c'est leur seule défaite de la saison.
Et ben on verra qui arrivera à ouvrir le score, mais ça changera pas mal de choses vu le profil des deux équipes. On passe à l'autre confrontation qui concerne une équipe française, le club de Christophe Kuchli, le grand LOSC, les Dogs, qui ont fini premier de leur poule pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions, et qui ont eu le bonheur de tomber deux fois de suite avec deux tirages sur le dernier vainqueur de la compétition. L'équipe qui avait écrasé sa poule, mais qui a réussi à finir deuxième quand même, c'est Chelsea, Christophe. Bon, ils avaient quand même perdu contre la Juve au match aller, mais derrière, ils les avaient massacrés 4-0. Et Chelsea, donc, qui récupère le LOSC. Chelsea très heureux aussi, parce qu'ils auraient pu tomber sur pas mal de gros. Ils auraient pu tomber sur le Bayern, ils auraient pu tomber sur...
Le Real. C'était la plus grosse possibilité, ouais. le Real. Probabilité, pardon.
Alors après, ils pouvaient pas tomber sur City et Liverpool, donc ça limitait quand même les possibilités de tomber sur un gros. Mais quand même, et donc ce Chelsea va jouer le LOSC. Tu as participé avant notre enregistrement à un podcast de La Voix du Nord, dont tu peux faire la pub d'ailleurs, Christophe, si tu veux.
Absolument, ça s'appelle 100% Lille, je suis dessus toutes les semaines depuis quelques mois. Je suis aussi dans 100% Lens, mais ça on s'en fout un peu dans le contexte là. Mais absolument, oui, et pour un peu expliciter ton lancement vraiment de tout début d'émission, c'est-à-dire qu'on enregistre le podcast, donc qui est aussi diffusé en télé sur une chaîne d'ici, à 13h, je crois, 13h, en gros on termine 13h30, on sort du truc, on a Sylvain Armand qui réagit en direct, etc. Donc du coup... Voilà, tout est bon, tout est câblé, diffusion à 16h. Et en fait, on commence à voir les premiers tweets, etc. Je vois vos messages sur notre conversation. Et là, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il faut qu'on retrouve des créneaux pour enregistrer, etc. Parce que du coup, t'es obligé d'avoir le studio télé. Finalement, au lieu de rentrer chez moi, je suis obligé de rester jusqu'au deuxième tirage. Parce qu'on se dit, on est obligé de tout refaire. Et finalement, en fait, ça retombe face à Chelsea. Donc du coup, on s'est dit, bon, tant pis, on garde la première version. Il n'y aura juste pas mention du fait qu'il y a eu deux tirages, mais sur le fond, ça reste un débrief des chances de Lille face à cet adversaire-là. Mais du coup, ouais, j'ai passé 3 heures de ma journée de plus dans les locaux de la Voix du Nord pour un réenregistrement qui, au final, n'a pas eu lieu. Mais oui, j'ai assez en tête un petit peu les avis à droite, à gauche, à la fois du club lillois et le mien, finalement, sur est-ce que ce tirage est bon ou pas.
Tu as en tête ton avis, c'est rassurant pour le contenu.
Ah non, mais... du coup, je l'ai déjà verbalisé, quoi. Je peux faire. Alors, je ne ferai pas de la redite, mais.
Non, on va attendre avant d'avoir ton avis, Christophe, parce que tu viens d'en parler et tu ne vas pas le redire tout de suite. Mais on a vécu ensemble, Flo, quand même, cet imbroglio, qu'on peut un peu détailler quand même, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est le LOSC qui finalement n'a rien qui change dans l'histoire, mais c'est eux qui espéraient le plus, je pense, quand il y a eu un nouveau tirage. Parce que vraiment, donc on rappelle les deuxièmes de poule potentielles. Il y avait donc Salzbourg, non, parce que c'est la même poule, mais il y avait Benfica, il y avait l'Atlético, il y avait l'Inter. Il y avait
Benfica, le Sporting, Villarreal, l'Inter.
Et voilà.
Et oui, l'Atlético, tu l'as dit.
Ouais, et PSG, ils ne pouvaient pas les rejouer. Donc vraiment, là, c'est clairement le pire tirage.
Ah oui, bah on en a parlé justement dans l'épisode précédent, quand on se projetait sur ce tirage et on donnait même, face à l'Atlético, on se disait, vu la capacité par exemple de l'Atlético à faire le jeu, etc., une équipe comme Lille peut les accrocher, puisque l'Atlético généralement va se mettre au niveau et jouer le 1-0. Donc si tu mets le premier contre eux, pourquoi pas? Pourquoi pas espérer quelque chose et avoir une chance de passer? Et je crois qu'on avait fait des pourcentages de chances de passer. Ouais, et on était sur 25-30 pour l'Atlético, par exemple. Mais sur Chelsea, on était
sur 10, un petit peu. 10 ou un truc comme ça, je crois.
Ouais, et 10, je pense que c'était la fourchette haute.
Ou 1, je sais plus, on avait dit 1 ou 10. Mais 1, c'était peut-être un peu exagéré, mais on s'était dit que la gestion de la largeur pour les lignes de 4 du LOSC serait très compliquée face à Chelsea.
C'est ça, et on peut déjà annoncer que ce sera l'une des clés du match, je pense. Ouais. La capacité des Lillois à gérer les montées des pistons de Chelsea, de Reece James, de Chilwell, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu de gros sur la phase de poule. Donc là, ils vont être servis, pour le coup. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu te places du côté du simple point de vue du supporter, t'es très content d'être sorti de cette poule. Mais t'as ce côté en Ligue des Champions, bon, t'aimerais quand même croiser au moins une fois une très grosse équipe.
Ouais, là, mais bon, quand tu
peux difficilement faire mieux avec le tenant du titre.
Quand tu finis premier, tu te dis, bon, allez, quand même, on a fini premier.
Ouais, on va aller en quart et le gros le prendra en quart. Ouais, écoute, c'est comme ça. Mais après, c'est la faute à Chelsea. Hein, fallait pas perdre cette première place. Parce que, tu vois, ils auraient pris la Juve. Sur la Juve, j'aurais tenu le même discours que pour l'Atlético.
Oui. Et puis Benfica Sporting, tu te disais, bon, en termes de talent, il y a quand même possibilité pour Lille de faire quelque chose.
Là, bah, à part l'Inter, qui est un cran au-dessus, je pense. Mais je pense que tous les autres, tu pouvais espérer faire quelque chose, soit du 50-50 ou du 60-40, soit être le petit qui peut créer la surprise face à l'Atlético ou la Juve, vu le niveau de l'Atlético et de la Juve cette saison. Chelsea, bon... Après, bon, c'est pas non plus, quand tu vois un petit peu les stats avancées, tu vois les moments où ils perdent des points, parce qu'ils en ont perdu quelques-uns quand même ces derniers temps. Mais bon, le match est pas dans une semaine, c'est dans 2 mois, quoi. Donc là aussi, Chelsea aura le temps de se remettre. Ils vont peut-être bouger cet hiver, on sait pas ce qui peut se passer aussi. Mais c'est sûr que tu pouvais pas faire pire. Tu pouvais pas faire pire, tout simplement.
Je m'inquiète beaucoup, Christophe, pour le duo d'attaque lillois face à Rudiger, Christensen, Thiago Silva et compagnie. J'ai du mal à les imaginer dominer physiquement des adversaires comme ils peuvent le faire en Ligue 1. Enfin, quel secteur de jeu Joe David et Burak Yılmaz vont pouvoir faire mal à la défense de Chelsea.
On va pas se mentir, mais le match, j'ai peur que ça soit un peu comme quand Marseille avait affronté City, c'est-à-dire que la question de duo d'attaque ne se pose pas puisque les attaquants ne sont pas touchés. J'ai peur, moi, que Chelsea s'installe dans le camp lillois. Et en fait, quand la balle sera perdue, elle sera récupérée tout de suite. Et au final, le moment où tu auras des duels à jouer, pour moi, c'est vraiment la clé. Mais rien ne garantit que le joueur sera encore là à ce moment-là. C'est Renato Sanchez. Si par contre,
ce que j'allais dire.
T'arrives à... Parce qu'il y a bien des moments où Chelsea va perdre la balle, ça va tenter des 1 contre 1, etc. Si t'arrives à vite toucher Renato Sanchez, que lui se retourne, se met face au jeu et gagne des mètres, là, ça joue une transition et là, on peut parler. Par contre, si Renato Sanchez part cet été, ce qui n'est pas improbable, il y a 2-3 clubs qui sont intéressés, que ce soit du Wolverhampton, etc.
Oui,
je ne vais pas lancer du scoop, mais
Financièrement, ce n'est pas non plus la folie du côté du LOS.
C'est ça, même si la qualif fait du bien. Mais Wolverhampton arrive avec une enveloppe entre 35 et 45, la question va se poser. Et je ne sais pas, et ça pour le coup, je ne sais vraiment pas, et du coup, je suis avec les gens de la Voix du Nord, on en a encore discuté tout à l'heure. Je sais pas à quel point le fait de jouer un très gros le motive à rester ou pas, tu vois. Est-ce que, parce que lui aussi il devait partir cet été, l'été dernier, est-ce que du coup il va se dire, ah c'est Chelsea, c'est un gros match, faut que je joue, ou alors est-ce qu'au contraire, s'il s'était dit, ah bah Villarreal on peut passer, je vais peut-être jouer un quart, c'est cool, et là peut-être qu'il va se dire, franchement on a zéro chance, donc autant me barrer, parce que ça sert à rien, des matchs importants j'en jouerai d'autres, quoi.
Il est chez Mendes ou pas?
Non, je crois pas. Je t'avoue que moi, les agences, c'est un truc qui me dépasse un
peu. Ouais, non, mais parce que comme tu parles de Wolverhampton, ça me fait penser à la connexion, tu vois.
Ouais, après,
après, il est portugais, donc il est forcément chez Mendes d'une manière ou d'une autre.
Oui, c'est ça.
Globalement.
Mais en fait, je vais rejoindre, alors je vais pas redire ce que j'ai dit, même si les gens n'écouteront pas les deux émissions nécessairement, mais dans 100% Lille, mais c'est vrai que la Juve te permettait de cumuler. Alors la question s'est pas posée parce que Chelsea a pris une lucarne à la dernière seconde du dernier match. Mais la Juve, t'avais à la fois le prestige de l'adversaire, qui vis-à-vis du grand public, etc. Ah bah c'est la Juve quand même, mais la chance de passer. Là, Chelsea est sans doute même un peu moins prestigieux aux yeux de gens qui suivent le foot de manière un petit peu plus éloignée, même si c'est l'ancien vainqueur. Voilà, c'est le prestige est un peu moindre. En plus, bon, il y a les restrictions sanitaires qui, pour les supporters, vont vraiment faire chier, parce que je pense que personne ne pourra aller du côté de Londres. Donc, mine de rien, pour l'aspect, voilà, jouer à l'extérieur, tu n'auras pas ton public, sans doute. Donc ça va jouer aussi. Et ça veut dire que c'est un très gros, impressionnant sur le papier, mais qui, en plus, est injouable dans les faits, quasiment. Alors que la Juve, tout le monde aurait dit « Ah, ils ont tapé la Juve !» Alors qu'au final, ça aurait été un exploit, mais moins grand. Et, mine de rien, alors je suis désolé, c'est un peu un tropisme lillois, mais Lille n'a toujours pas rempli son stade cette saison en Ligue des Champions. Et je suis pas sûr que Chelsea, a priori, tu vas le remplir, mais je pense que tu l'aurais beaucoup plus facilement rempli avec Benfica, avec communauté un peu franco-portugaise, etc., ou face à la Juve. Là, Chelsea, je suis même pas sûr qu'ils le remplissent. Donc, en fait, après, c'est toujours pareil, c'est un peu les petits poussés de Coupe de France, enfin, tu sais, les équipes de N2 qui se retrouvent en 32e. Est-ce que tu préfères jouer une autre équipe de N2, mais si t'es éliminé, t'es dégoûté? Ou est-ce que tu préfères tomber sur une Ligue 1, quoi, en fait? Et là, c'est vraiment ça, parce que si tu tombes contre Villarreal, je pense que t'es limite favori, et que tu te fais éliminer, là t'es encore plus dégoûté que d'être éliminé par Chelsea, quoi.
Je pense que le stade contre Chelsea, tu le remplis si t'es encore en vie pour le match retour.
Bah c'est pour ça qu'il faut vendre les billets avant. Parce que ouais, tu joues à l'extérieur et tu peux prendre 3-0, donc il faut être guichet fermé avant, parce que sinon...
C'est vrai.
Mais il y a des gens qui vont peut-être hésiter, tu vois, si Lille fait un partout là-bas, et ils vont se dire, allez, on y va, parce que ce sera historique. Et donc je vérifie, Renato Sanchez, c'est bien chez Mendes, puisqu'il est chez Gestifoot, ou Restifoot.
C'est étonnant. C'est surprenant.
Qui a une enveloppe de joueurs assez impressionnante. Hein. Franchement, tu remontes toute la liste. C'est plutôt sympa. Il peut se faire un 11 pas mal. Le Mendes FC, je pense, pour gagner pas mal de.
Ah, tu prends la sélection portugaise, non?
De championnat. Bah, je te cite les 10 premiers là en valeur marchande. T'as Ruben Dias, Bernardo Silva, Fabinho, Cancelo, Ederson, Cristiano, Jota, Ruben Neves, André Silva, Pedro Neto, Ricardo Pereira, Adama Traoré, Semedo, Sanchez, Leao, et puis après en étranger, enfin en non portugais. Bah,
ça manque de gardiens.
Et il y a Ederson quand même, dans les buts.
Ah, il y a Ederson.
Est là-bas.
Peut-être. Il y a Di Maria, Rames Rodriguez aussi, Ryan Ait Nouri, Rafa Mir est là, qui a quelques joueurs. Artem Dziouba, tiens, qui est un peu un intrus là. Je sais pas comment il a fini là. Peut-être pour un transfert qui ne s'est pas fait. Et Nicolas Otamendi qui est encore dans... Et José Sa est là, Christophe Evian.
Ouais, donc du coup, t'as pas toute l'équipe de Wolverhampton.
Mais je crois que Wolverhampton, il doit y avoir une pression populaire du groupe pour rejoindre l'agence qui doit être assez costaud quand même. Parce qu'il y a même Bad Doherty qui est là, qui est passé
par Wolverhampton. Ouais, c'est le transfert est fait sur ça.
Et qui est à Tottenham maintenant. Donc voilà pour l'enveloppe Mendes. Chelsea-Lille donc pareil, donc mi-février pour ces matchs-là, match aller à Stamford Bridge, match retour du côté du stade Pierre-Mauroy, où tu seras j'espère, Christophe, quand même pour ce match, si tu as
je m'accréditerai en espérant que le process soit pas trop chiant, parce que genre à Wolfsburg c'était une personne par média, donc on verra avec le Covid, etc. Mais bon, un huitième de finale avec Lille, il y en a eu qu'un, et honnêtement c'est le match d'une vie pour le club, hein, parce que à l'échelle de son existence, le LOSC n'a pas beaucoup de très grands matchs, il y a eu quelques titres, etc. Mais des parcours européens, il n'y en a pas, en fait. Je veux dire, quand tu compares à des clubs que tu peux imaginer de la même stature, je sais pas, des Bordeaux, des Nantes, ouais, machin, des Bastia, enfin, Lille n'a pas de quart de finale européen. Donc du coup, si tu peux faire un exploit, c'est maintenant ou jamais, quoi.
Oui, si tu fais quelque chose, même si tu y crois un moment, ça passera devant le Lille-Milan ou le Lille-Manchester, je pense.
Oui. Oui, le Manchester, où tu prends le coup franc de Giggs avant le coup de sifflet de l'arbitre à l'époque.
Oui, je pense qu'en effet, pour Lille, ce serait pas mal, mais en effet, Renato Sanchez, s'il part, ça sera compliqué. Après, Chelsea peut très bien lui envoyer N'Golo Kanté sur le dos pendant 180 minutes.
Bah, s'il est là, ça sera ça. Hein, ouais.
De toute façon. Ah oui, non, mais clairement. Mais disons, c'est le seul truc où, tu sais, moi je dis, il peut se passer quelque chose. Sinon, je vois aucun. Après, tu peux mettre un coup franc, machin, etc. Mais sinon, je vois aucun univers ou même Celik face à n'importe lequel des 150 ailiers de Chelsea. Ouais. Sachant qu'encore une fois, Chelsea, Lukaku est vraiment pas très bon depuis le début de saison. Donc là, t'as même pas la meilleure version. Là, en gros, t'as un peu un Chelsea saison dernière avec des progressions individuelles de Reece James, etc. Si Lukaku s'intègre dans 2 mois, c'est encore une autre limonade. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que Chelsea est pas full power actuellement.
Non, mais en plus, tu vois, tu tombes sur Chelsea et enfin, au-delà de la qualité de Chelsea, tu tombes sur un adversaire qui peut vraiment marquer individuellement Renato Sanchez avec un gars qui peut tenir la distance. Que Renato Sanchez, on l'a encore vu contre Lyon, à un moment il démarre contre Cherki, t'as l'impression que Cherki est pas explosif.
Cacré aussi.
Oui, après sur Cacré c'est moins étonnant, tu vois. Mais quand t'arrives à lâcher Cherki sur 5-6 mètres, c'est quand même que t'as un...
Ouais, Cherki qui prend carton sur cette action.
Oui, bah, en même temps, qu'est-ce que tu peux faire maillot,
ouais. Et Cacré qui perd ses jambes. sur l'action.
Oui, oui, oui. Cacré qui perd beaucoup de choses sur l'action, qui perd son amour propre aussi, parce que le dribble était très violent. J'ai pas vu au ralenti, mais à vitesse réelle, le ballon et Cacré sont partis dans deux directions opposées. Ça fait un truc.
Mais les dribbles violent. Comme ça, faut les revoir à la vitesse réelle. Genre le ralenti, ça, oui. Ça peut dénaturer un peu. Faut juste constater le fait que la personne tombe, c'est rigolo.
Les autres matchs, messieurs, donc Salzbourg-Bayern, Sporting City, Benfica, Ajax, Atlético Manchester United, Villarreal-Juve et Inter-Liverpool, est-ce qu'il y a un de ces matchs qui vous intéresse plus que les autres? Bon, évidemment, de mon côté, ça va être Inter-Liverpool, mais aussi parce que c'est un des matchs les plus rares, les plus originaux. Il s'est pas arrivé depuis 2008, donc ça fait 13 ans qu'on n'a pas vu cette rencontre. Ça fera 14 ans en 2022. Et puis, c'est deux belles équipes, deux équipes parmi les 7-8 meilleures en Europe aujourd'hui, peut-être, Flo.
Oui, oui, oui. Après, j'ai très peu vu l'Inter cette saison, mais Inzaghi a l'air d'avoir fait, enfin, très bien bâti sur ce qu'avait laissé Conte.
Oui, oui.
Donc ça, c'est positif. Après, je pense que, en fait, ça va être intéressant parce qu'il y a vraiment deux équipes avec des styles de jeu bien marqués et qui fonctionnent surtout en championnat.
Et des systèmes maintenant, bien différents aussi, tu vois, ça qui est cool.
Ouais, des systèmes bien différents. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sacré gap quand même entre le niveau des deux équipes, donc j'ai du mal à me dire l'Inter va vraiment emmerder Liverpool aujourd'hui. En tout cas, on verra dans deux mois ce qui peut se passer. Je vois Christophe faire la moue, donc je vais laisser enchaîner après.
Non, je sais pas, j'hésite.
Meilleure attaque après... d'Italie avec pas mal de buts d'avance, l'Inter. Ils mettent des scores depuis quelques semaines là, 4-0 contre Cagliari, 3-0 à la Roma, gagné 3-2 contre Naples, ils avaient fait un partout contre la Juve en début de saison, 2-2 contre la Atalanta. Ouais, c'est quand même une équipe qui est sérieuse.
Mais après, oui, sur le papier, c'est d'assez loin le huitième le plus intéressant si on sort des huitièmes avec les clubs français. Après, Salzbourg-Bayern, je crois que c'est une redite. On l'a eu en poule l'année dernière, ou il y a deux ans, non, il me semble, qui s'était croisé.
Ouais,
je crois. Parce qu'il y a eu... En plus, c'est rigolo parce que le premier tirage, c'était Salzbourg-Liverpool. Et ça aussi, on l'avait eu en phase de poule il y a quelques temps.
Oui.
Donc, ça va être intéressant. Mais bon, le Bayern pourra peut-être trouver ses prochaines recrues. Quoi. C'est sur ce match.
Ça, Adeyemi.
Ouais, par exemple. Parce que Adeyemi, ça parlait même d'un possible départ en janvier. Donc, à voir.
Il a une clause assez basse. Hein, donc, en effet, ça peut motiver un départ en janvier, comme ça avait été le cas pour Minamino et Haaland, d'ailleurs, il y a deux ans de ça.
Après, ce qui est positif, c'est l'Ajax, enfin le Benfica-Ajax peut être sympathique à voir avec ce qu'avait pu faire le Benfica au premier tour face au Barça notamment. Mais sinon, globalement, j'ai pas envie de parler d'Atlético Manchester United parce que on va attendre de voir ce que fait Rangnick. Mais c'est vrai que si le coach n'avait pas changé, Atlético United, je pense que ça aurait été un des pires matchs possible.
Je pense que le Villarreal-Juve aussi est un gros candidat.
Oui, c'est vrai que ça peut mettre des coups pendant 90 minutes des deux côtés, quoi. Si on peut résumer la chose, ça peut être assez compliqué à regarder. Mais vivement de connaître, je pense pas qu'on les ait encore, les programmes, puisque ça va être deux par deux les matchs, donc histoire qu'on puisse savoir quel match on pourra regarder et quel match on pourra faire exprès de rater, en espérant que les meilleurs ne se marchent pas trop dessus.
Alors les Villarreal et Juve, parce que Christophe en parlait, la Juve en 17 matchs de Serie A, c'est 23 buts, ce qui n'est pas énorme quand même pour une équipe qui est bien dotée, et Villarreal en 16 matchs de Liga, c'est 18 buts.
Ouais, non, ça va pas du tout. En plus, je suis d'autant plus triste qu'il y a quelques joueurs que j'aime bien du côté de Villarreal, notamment Danjuma et Jérémy Pino, les ailiers dribbleurs, mais même si Danjuma peut jouer en pointe. Mais bon, j'aurais préféré voir l'Atalanta qui a failli se faire une remontada incroyable, mais qui a quand même offert un peu trop de buts sur le dernier match face à Villarreal pour se qualifier.
Et on félicite avec vraiment beaucoup de fierté de l'Athletic Bilbao et ses 13 buts en 17 matchs, 13 buts marqués, 12 buts encaissés en 17 matchs. Marcelino qui est devenu la version dark de Marcelino, là, ça joue plus du tout au foot. Qu'est-ce qui se passe à Bilbao?
Ouais, franchement, niveau malchance, il y a quand même un gros souci.
D'accord.
Encore là ce week-end face à Séville, en XG c'est genre 1,80 à 0,20. Ils ont deux poteaux, un tir à 2 mètres du but pas cadré, un tir à 4 mètres du but pas cadré. Là je crois qu'ils sont sur 56 tirs sans marquer, mais en gros ils se créent toujours pas mal d'occasions. Je crois qu'ils sont premiers en pression dans le dernier tir adverse, mais c'est juste que en fait ils ratent toujours leur dernier geste.
Et Raphaël, et Raphaël sur l'Athletic Bilbao, si tu veux une autre anecdote, ils sont à 26 expected goals créés. C'est la troisième meilleure attaque en Liga en expected goals derrière le Real et le Barça.
On est sur un Brighton là.
et donc 13 buts marqués et une sous-performance de un peu plus de 8 points. C'est-à-dire ils ont 21 points et ils devraient en avoir 29.
Ah, parce que marquer la moitié de TXG, c'est quand même très faible.
Parce qu'en plus, ils ont une très bonne défense à côté.
Je pense que
marquer 12 buts encaissés.
En fait, ils doivent péter les plombs à l'entraînement parce qu'ils doivent dire vraiment la consigne « Marquer !» Il faut tirer dans le but. Il faut tirer sur le côté, à peu près. Dans 5 de leurs 6 derniers matchs, Bilbao n'a pas marqué.
Mais sinon, par contre, par rapport au... Tout à l'heure, je parlais du calendrier des 8e de finale. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 4 clubs anglais... On a déjà ces 4 matchs qui vont pas se marcher dessus, qui seront pas, qui seront pas le même jour.
Les Français seront séparés aussi.
Et les Français seront séparés aussi, donc ça peut.
Et les Portugais.
D'imaginer certaines choses.
Les Portugais seront séparés
aussi.
En gros, il y aura que 2 formules possibles quasiment pour tout intégrer. En fait,
c'est comme les tirages au sort en fait. Tu peux tomber que sur 2 équipes parce que l'autre il doit jouer un Espagnol et pas un Français et machin et voilà.
Faut espérer ne pas tomber sur Paris Real Madrid et Inter Liverpool le même soir parce que ça pour le coup je pense que c'est possible. Et ça serait bête un petit peu que ça arrive quand même.
Ouais, j'espère que là ouais, ils vont pas se foirer comme sur le tirage. Quand même, c'est terrible, les mecs ils font 3 tirages par an, ils arrivent à se foirer. Motus, ils ont fait 30 piges à faire des tirages tous les jours, il n'y a jamais eu un seul souci avec la boule noire. Quoi.
Le pire étant quand après ils disaient nous allons refaire le tirage, mais nous allons vérifier humainement.
Oui.
Alors que je suis sûr qu'au départ c'est juste le mec qui s'est trompé de boule et ils ont pas voulu l'envoyer au feu, tu vois. On lui a dit Manchester, il a dû prendre Liverpool ou un truc comme ça parce que c'était bien affiché correctement. Il y a un petit affichage, genre, quelles sont les équipes potentielles. Enfin, c'est pas non plus... on n'est pas sur de la physique quantique, là, les gars, en termes de calcul de probabilité, de ce qu'il faut faire. Et après, ils disaient, nous attendons la validation. Je suis sûr qu'il y avait personne, en fait. Ils laissaient juste 10 secondes pour que tout le monde se dise, ah, c'est bon, ils vérifient maintenant, c'est bien, ils ont corrigé le truc. Et puis, André Archavine était ravi d'être là.
Mais après, c'est souvent, hein, lui. C'est,
Toujours.
Il était vraiment entre la dépression et l'inexistence. Il fait très jeune encore, André Chavine. Ça m'a choqué.
Mais n'empêche que sur le deuxième tirage...
Il a pris 2 ans, quoi. Il fait 14 ans maintenant.
Ah oui, c'est incroyable.
Depuis qu'il a arrêté sa carrière.
Sur le deuxième tirage, je sentais qu'il s'était pas bien. Il y a une plusieurs de fois, ils ont cafouillé les boules. Genre, ça tombait à moitié. Enfin, tu sentais qu'ils étaient pas tout à fait sereins. Qu'à tout moment, ils disaient, putain, j'espère qu'on va pas faire de conneries. Alors que d'habitude, c'est quand même fait de manière assez naturelle. Mais oui. Et sinon, moi je vais dire tout de suite que le tirage, je trouve pas hyper palpitant.
Alors, tu préférais le premier ou le deuxième ?
Le premier, je m'en souviens même plus. Donc du coup, je préfère parler du deuxième. Mais je t'avoue que ce tirage-là, entre les matchs déséquilibrés, alors c'est tout, hein. Enfin, je veux dire, des équipes type Salzbourg, Sporting, Villarreal sont là. Donc tu savais que dans tous les cas, y avait le risque qu'elles affrontent des premiers de poule et que ça soit déséquilibré. Mais c'est vrai qu'un Sporting Manchester City, par exemple, j'ai peur que ça soit 80% de possession City et que ça gagne 2-0, 1-0, sans forcément être hyper palpitant. Et des matchs où... En gros, il y a le Inter-Liverpool qui me semble assez sympa, mais où j'ai peur effectivement d'un clash de programmation qui soit pas incroyable. Mais je veux dire, l'Atlético-Manchester, sur le papier, c'est 2 grands noms. Après, le Manchester de début de Rangnick est quand même assez médiocre, hein, pour pas dire plus. Genre là, dernier match, ils ont pas pressé une fois pendant 90 minutes. Bon. Et l'Atlético qui est assez dégueulasse à regarder. Donc c'est-à-dire, même les grands noms sont pas hyper palpitants. J'avoue limite que moi, j'espère que le Salzbourg-Bayern, qui me semble être l'une des oppositions... où le petit a des choses à jouer sur le plan tactique, où ça peut être intéressant. Je veux dire, même les dernières fois que Salzbourg a joué Manchester, je crois qu'ils prennent un moment, le Bayern, je crois qu'à un moment ils prennent un 6-2, quelque chose comme ça, mais le match était cool en fait. C'est juste que leur style de jeu faisait qu'au bout d'un moment ça explosait. Mais Salzbourg, a priori, n'aura pas peur de rentrer dans le Bayern. Donc là au moins, ça m'intéresse. Sinon, j'ai peur, après, je me trompe peut-être, hein, mais que genre Benfica face à l'Ajax, Benfica soit plutôt sur l'idée de laisser le ballon. Pareil, le Sporting face à Manchester City, que personne ne veuille du ballon dans Atlético Manchester, que personne ne veuille vraiment, alors peut-être pas du ballon, parce que je pense que le Villarreal aura le ballon face à la Juve, mais que personne ne veuille attaquer, et finalement, il n'y a rien d'hyper palpitant, donc à voir, hein. Mais même sur les oppositions de style, sur le plan tactique, entre deux équipes qui ne seraient pas forcément du même niveau, je ne vois pas beaucoup de matchs où je me dis, ah tiens, ok, il y a une équipe plus faible, mais elle va apporter des choses un peu palpitantes sur le plan tactique.
Eh bien, on va voir avec la Ligue Europa si le tirage vous plaît plus. Rapidement, et puis on dira un petit mot de Marseille-Karabagh, mais vu que je pense que personne d'entre nous n'a vu la moindre minute de Karabagh.
Si,
si. Vous avez vu Karabagh cette saison ?
Moi, je déconne.
D'accord.
Non, Christophe. Si, moi, je regarde tous les résumés de Karabagh j'arrive à les trouver, mais parce qu'il y a Abdelazoubir qui joue là-bas.
Mais est-ce que tu as déjà vu un match de Karabagh
J'ai dû en voir... non. Si, je crois que j'en ai peut-être aperçu une fois en Ligue Europa, 45 minutes. Mais je regarde souvent les buts que je peux trouver de Karabakh, puisque comme je disais, ils ont là-bas Abdelazoubir, l'ancien joueur de Lens, et comme je fais ma rubrique en voie des sports sur les anciens joueurs passés par des clubs nordistes.
Le nordiste du week-end. Souvent. Pour le fameux nordiste du week-end.
6 buts, buts, selon
c'est ça, 6 buts, buts en 12 matchs, et son record sur une saison est à 7. Donc du coup, il peut battre ce record. L'ancien joueur de futsal, voilà, c'est la seule information que je peux vous donner, à part le fait que Karabakh soit impossible à rejoindre pour les supporters, parce que c'est très très loin et c'est très compliqué d'y aller.
Bah, t'as une mission, Christophe, c'est nous dégoter une interview d'Abdelazoubir d'ici le match aller entre l'Olympique de Marseille et Karabakh. Écoute, si tu as des contacts, fais-les jouer. Le tirage au sort de la Ligue Europa, je vous donne les matchs. Séville, Dynamo Zagreb, Atalanta, Olympiakos, Leipzig, Real Sociedad, Barcelone, Naples, Zenit Betis, Dortmund contre les Rangers, Sheriff Tiraspol contre Braga et Porto contre la Lazio. Flo, tu peux choisir un match pour en parler.
Barça-Naples. Forcément, je pense que c'est assez évident. C'est-à-dire, ce qui était rigolo, c'est quand Barça a été reversé en Ligue Europa, certains modèles, dont Swiss 538 l'annonçait favori de la Ligue Europa. Je pense que à partir du moment où... Enfin, tu pouvais déjà en douter, mais le fait de prendre Naples... Alors après, il y a toujours cette question avec les clubs italiens et la Ligue Europa, c'est est-ce qu'ils vont la jouer à fond? Parce qu'il y a quand même plus d'une équipe italienne où t'arrives en 16e et tu te dis « Ah ouais, eux, ça fait un favori. » Puis généralement, vu que ça joue le Scudetto...
Je te pose une colle, Flo. Quelle est la dernière équipe italienne à avoir gagné la Ligue Europa? J'ai pas la réponse, hein, donc il faut que vous soyez...
90, à mon avis.
Ça
doit être Parme, non?
Parme,
99, c'était
pour moi, c'est
Parme,
ça. Je vais vérifier, mais à mon avis, c'est Parme.
La Juve fait pas une finale il y a quelques années de...
Bah, l'Inter fait demi. Ou il perd. Ou non, finale, il y a l'Inter et ça perd.
Bah, l'Inter perd en 2020,
après avoir démoli le Shakhtar en demi.
Et le dernier vainqueur italien de la Coupe de l'UEFA, c'est Parme en 99. Donc tu avais bon, Christophe, contre Marseille.
Oui, donc, du 3-0. Coup, concrètement, il n'y a aucun club italien qui a gagné la Ligue Europa.
Après, les clubs qui ont gagné la Ligue Europa, généralement, c'est l'Atlético et Séville. Donc oui. Ça limite les vainqueurs de cette compétition. Et avant ça, en 98, l'Inter avait gagné contre la Lazio, c'est la finale que Ronaldo remporte.
Après, c'est pas parce que Naples tape le Barça qu'ils vont la gagner, la Ligue Europa. Mais,
c'est l'intérêt qu'ils portent à cette compète, ouais.
Oui, voilà, mais c'est juste pour dire que est-ce que un Naples qui fait tourner, je pose plus la question à Christophe, est-ce qu'un Naples à prime, c'est-à-dire où tu changes, t'as 7 titulaires et 4 remplaçants, est-ce qu'un Naples à prime peut pas taper le Barça actuel?
Le Barça actuel peut être tapé par Sassuolo, hein. Donc je dis même pas ça pour la vanne, hein. Vraiment, le Barça actuel c'est extrêmement compliqué, et puis de toute façon il n'y a pas de vanne à voir, hein. Tu regardes les résultats, au bout d'un moment... Les scores peuvent mentir un petit peu, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent. Le truc à Naples, alors là on est vraiment 100% sur la projection, je suis désolé, mais ça va beaucoup dépendre, je pense, du classement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit gap qui était fait entre le top 4 et le reste, et Naples était très longtemps premier ou deuxième, donc du coup ça joue le titre. Là, notamment depuis la blessure d'Osimhen, même s'il n'y a évidemment pas que ça, c'est plus compliqué. Là, donc au moment où on enregistre, 13 décembre, l'Inter est à 40, Naples est quatrième à 36 points. Donc du coup, tu restes dans le coup pour le titre, mais bon, sur la dynamique, tu avais des points d'avance, maintenant tu as 4 points de retard. Et la Fiorentina est cinquième à 30 points. Je pense sincèrement, donc 6 points de Naples. Je pense sincèrement, après c'est mon avis, hein, ça vaut peut-être pas grand-chose, que si Naples joue le titre ou en gros c'est serré au niveau de la quatrième place, c'est-à-dire si la Fiorentina revient et qu'il n'y a que quelques points d'écart, ou si Naples remonte son écart, je pense vraiment que des barrages de Ligue Europa, ils s'en foutront complètement, surtout que le niveau est quand même assez élevé. Il y a pas mal, bon après la Real Sociedad en ce moment c'est plus dur, hein, mais des Leipzig, des équipes, l'Atalanta, enfin bref, tu vas pas forcément rigoler. Par contre, si le top 4 a une dizaine de points de marge sur le 5e, mais que le titre n'est plus abordable, admettons que t'as 10 points de retard sur l'Inter, mais 10 points d'avance sur le 5e, là je pense que Naples mettra sa meilleure équipe, mais c'est vrai que sur le banc, en fait, t'arrives vite, alors c'est pas indigne, hein. Mais en gros, t'es sur une rotation genre Politalo Lozano, ça va, mais ensuite sur les côtés, t'arrives vite sur du Malcuit. Bon, Zambo Anguissa, oui, derrière Diego Demeux, c'est un peu moins bien. Enfin bon, c'est, t'as un banc, mais le banc, c'est pas le banc de Chelsea, par exemple, où en fait, t'as deux équipes qui se valent totalement. Là, la rotation, par exemple, d'Osimhen, c'est soit Mertens, mais ça commence à être difficile en neuf, soit Petagna, et c'est 140 kilos, qui est un bon petit joueur, hein, mais bon, c'est pas forcément le profil qui va plus le faire chier le Barça, je pense, qui, avec son marquage individuel, souffre plus face aux mecs qui font des courses qu'autre chose. Donc, bon, je pense que dans tous les cas, ça peut être 50-50, mais si Naples a la meilleure équipe, à l'instant T, pour moi, Naples est meilleur que le Barça.
Après, le Barça, après deux mois de Xavi, aura peut-être largement progressé, évidemment.
Ouais, parce que là, après deux semaines de Xavi, ils sont moins bons qu'après deux jours de Xavi. Donc, ça va pas dans le bon sens, mais bon, il y aura une trêve. Donc,
tout n'est pas linéaire dans le football. Match retour à Naples, il faut le rappeler. Hein. C'est...
Ouais. Et par contre, moi, j'ai une question pour Raphaël.
Oui.
Puisque tu as donné les 8 matchs de ces barrages, on est d'accord que pour Lyon et Monaco, qui sont déjà qualifiés pour les 8e et qui vont prendre un des 8 vainqueurs de ces barrages-là, s'il n'y a pas trop de surprises, il n'y a qu'une seule équipe prenable, en fait.
Sheriff.
Le 8e de finale. Ouais, le vainqueur de Sheriff Braga. Mais sinon, Porto-Lazio...
Oh, prenable, si. Il y a des équipes qui sont très irrégulières, quand même.
Genre Zenit-Bétis, normalement, tu...
Ouais,
mais du coup, certes. Est-ce que Monaco peut retomber sur la Real Sociedad si la Real Sociedad gagne?
Je crois, oui. J'ai vu des débats là-dessus, et a priori, oui.
Ok.
Je pense que oui.
C'est un peu étrange, mais pourquoi pas.
Mais ça va, enfin, quoi qu'il arrive, t'auras pas un cadeau. C'est...
Non, il y a pas de cadeau, mais il y a pas non plus
pas de cadeau du tout.
Il y a aucune équipe où je me dis c'est sûr que tu vois, il y a pas de Chelsea Lille. C'est pour moi, il y a pas d'équipe tellement convaincante. Je suis très curieux par contre de voir ce que peut faire le Betis, qui continue à progresser, qui a encore régalé là ce week-end. Je crois qu'ils mettent 4-0 à je ne sais plus quelle équipe.
À la Real Sociedad. Ouais,
ouais, à la Real Sociedad en plus. Le Betis de Pellegrini, je pense que ça peut être sympa en Ligue Europa. Ça peut être un bel objectif pour eux.
Après, le dernier Betis sympa en Ligue Europa, on l'a vu à Rennes. Et... bon, contre Rennes, c'était sympa le match aller.
Ouais.
On était au stade, mais le retour, c'était compliqué.
Le Betis de Kiké.
S'était fait sortir. Le Betis de Kiké s'étienne absolument.
Et sinon, bah, Dortmund, ce sera intéressant aussi de voir, parce que Maric et Rose ont déjà fait plusieurs parcours en Ligue Europa intéressants à l'époque de Salzbourg.
Ouais, quoi qu'il arrive, en 8e, il y aura de sacrées affiches. Quoi. Ça, c'est,
ouais. Franchement, je trouve
c'est,
là les,
c'est évident.
Les barrages. Alors, techniquement, c'est un 16e où il manque du monde. Bon, ces barrages-là, je trouve les affiches plus cool que celles de Ligue des Champions. Tout en étant tout à fait conscient que, même si je trouve ça cool, genre un Leipzig Real Sociedad, il y aura évidemment moins de qualité sur le terrain que sur un Juve Atletico. N'empêche que je préfère voir ces deux équipes-là, même si la Real Sociedad en ce moment est un peu portée disparue. Enfin voilà, je trouve que c'est plus équilibré. Alors c'est pas du, je sais pas, ça sera tous entre 6,5 et 8 sur 10 grand max, mais même la Atalanta Olympiakos par exemple, je pense pas le regarder, ça va dépendre un peu des clashs avec les horaires sur les autres matchs, mais sur le papier honnêtement ça fait quand même plutôt envie quoi.
Ouais, pareil, ouais, il faudra voir aussi où en est l'Atalanta. Christophe, tu parlais de
moi, pour le titre
si l'Atalanta
aussi,
est comme il y a quelques temps là, quand ils jouaient le titre avec la Lazio et la Juve, faudra voir ce qu'ils pensent de la Ligue Europa.
Puis t'as le côté beaucoup plus équilibré en fait qui joue,
oui, c'est ça.
Qui joue énormément quoi. Leipzig Real, il y a un truc aussi, c'est laquelle va rater le plus de grosses occasions, parce que c'est un peu le lot des deux équipes depuis le début de la saison dans les deux surfaces adverses. Donc il y a vraiment des affiches intéressantes.
Storytelling fou mais qui n'intéressera absolument personne, qui est le retour de Sorloth à Leipzig, lui qui n'est pas incroyable à la Real Sociedad et qui n'était pas incroyable à Leipzig.
Il me semble que la presse espagnole écrit déjà sur ce storytelling-là.
Bah écoute, Sorloth, honnêtement, je pense que c'est le seul mec qui aura joué dans les deux équipes, donc ils seront bien obligés de faire un article si...
Est-ce que c'est pas le mec qui aura joué dans les deux équipes et dont on se souviendra le moins?
Bah c'est bien pour ça que je suis bien content de m'en souvenir. Enfin, c'est pas son souvenir techniquement.
C'est frais encore, oui, c'est frais. Est-ce que dans 4 ans.
En plus, il a marqué ce week-end. Non, pas ce week-end, mais il a marqué il y a pas très longtemps, Sorloth.
L'immense Alexander qui est devenu un peu une vanne dans le banc. Par contre, c'est vraiment la compétition, en tout cas les 16e, des joueurs qui y joueront plus haut dans un an ou dans 6 mois. Alors, il y a un nombre de joueurs là qui, à mon avis, on va retrouver dans des grands clubs et qui pourront se montrer sur ce tour-là. Qui seront assez intéressants. Les Nkunku, Ishak, Haaland, compagnie, même des joueurs à Séville et à l'Atalanta. Parce que le nombre de transferts dans les 6-8 mois à venir va être assez important. Pareil à Porto, où Luis Diaz et ses sourcils de méchant est apparemment devenu le meilleur joueur du championnat portugais. Donc, curieux de voir ça et voir ce que Sarri va faire avec la Lazio, lui qui était allé remporter la Ligue Europa avec Chelsea.
Mais Kylian ne gagne plus un match avec la Lazio.
Il y a deux ans de ça.
Donc on verra. Et à votre avis, les favoris actuels pour la sur 538 pour la Ligue Europa, ça a bougé un petit peu avec le les quatre premiers.
Dortmund.
Dortmund est premier.
J'allais dire Dortmund aussi en tête.
12%. Deuxième.
Barça quand même.
Leipzig.
Ah ouais.
11%. Ils ont mis Leipzig. Troisième. Non, Séville est sixième.
Et le 7%. Barça est plus du tout dedans.
Le Barça est quatrième, ah, 9%.
Ouais. Bah, Naples,
Porto, c'est Porto qui est troisième, 10%.
Ah, ouais.
Non, Naples est plus bas, ils sont à 5%, bah, parce qu'ils croisent le Barça, j'imagine.
Ouais.
Et sur la confrontation Naples-Barça, c'est 56-44 en faveur du Barça.
Et qui est le deuxième le premier de sa poule de Ligue Europa le mieux placé?
Alors, le premier de sa poule de Ligue Europa le mieux placé, bien, je pense que c'est West Ham.
Ah ouais, ah, j'aurais mis Leverkusen, moi. Bon, même si là, ce week-end, ils sont décédés, mais...
Leverkusen est juste derrière, à 6%. Et derrière, suit Monaco en 3, et Lyon est beaucoup plus bas parce qu'il y a Francfort qui est intercalé aussi. Entre
les... Oui, après Lyon, je pense qu'un mec de 538 a vu un match et a dit « Ok, non, les gars, il faut baisser là, l'algorithme à faux, on va changer tout ça. » Bon, voilà pour ce tirage au sort de Ligue Europa qui promet des bons matchs également, en tout cas. Et ça, donc, les matchs sont quand de 16e? Ils vont être tôt, du coup, parce que...
Bah, ils vont être en même temps...
17 et 24.
Voilà. C'est en même temps que les premiers huitièmes de finale.
Ah, d'accord. Je pensais que ce serait un peu avancé.
Enfin, pas en même temps, mais la même semaine.
Je pensais que ce serait un peu avancé, mais non. Donc, bon, je suis un peu déçu. Ok. Et Lyon et Monaco.
Ça remplace les 16e de finale de Ligue Europa, en fait. Ouais.
Et donc, Lyon et Monaco, ce sera le 10 et 17 mars.
En même temps que les matchs retour de 8e de Ligue des Champions.
On en parlera évidemment dans Vue du Banc. La Ligue Europa Conférence, où Rennes n'a pas été mentionné, puisque Rennes a fini le premier de sa poule et attend donc les résultats de ses barrages à venir. Je vais les donner. Marseille-Karabakh, match aller à Marseille, match retour à Karabakh, ça va être fun. PSV Tel Aviv, Fenerbahçe, Slavia Prague, Midtjylland, PAOK, je sais pas s'il faut dire Midtjylland comme ça, je sais pas comment on dit. Pas d'avis, très bien.
Leicester Rangers. Tu pensais vraiment qu'on allait corriger sur du danois ou...
Bah oui, t'es capable de tout, Christophe. Celtic, Bodo Glimt, Sparta Prague, Partizan Belgrade et... Enfin, je crois que c'est Belgrade, oui. Et Rapid de Vienne contre Tottenham ou Vitesse. Et là, sur le site de l'UEFA, ils mettent Tottenham. Mais Tottenham a fait forfait contre Rennes. Donc, est-ce qu'ils auront le droit d'être là? Je ne sais pas trop où on en est.
Pour l'instant, ils auront envie d'être là.
C'est ça. J'ai l'impression que la Ligue Europa Conférence pour les finances de Tottenham n'a pas l'air d'être prioritaire. Puis, ils ont une crise Covid en ce moment. Donc, c'est le cadet de leurs soucis. Donc, on va commencer par Marseille-Karabakh. Qu'est-ce qu'on peut dire de Karabakh à part parler d'Abdelaz Oubir? Que
bon,
c'est loin.
On va pas se donner un genre. Hein.
C'est loin.
Tête de son classement.
Que c'est très loin.
Oui, c'est loin. Ouais.
Qui est loin. Non, mais après le truc que tu peux faire. Alors évidemment, ça vole pas très haut, hein, mais c'est regarder les précédents résultats. Là, concrètement, c'est une équipe qui termine juste derrière Bâle dans sa poule, loin devant Nicosie et loin devant le Kairat Almaty, l'équipe d'Azerbaïdjan. Non, eux, c'est l'Azerbaïdjan du Kazakhstan. Donc, du coup, c'est une équipe qui est pas si loin de la première place et qui a quand même un petit historique européen. Donc, c'est pas un monstre, mais par exemple, il avait paumé contre Kabbalah à l'époque en C3 de mémoire. C'est plus fort que... Il y a aussi un peu ce côté piégeux, mais c'est plus fort que Kabbalah, par exemple. Je pense... Alors, c'est un avis pas hyper éclairé, mais je suis pas persuadé que Karabakh soit forcément moins fort qu'une équipe, je sais pas, de 10, 11, 12e de Ligue 1, quoi. Clairement, c'est pas une équipe de Ligue 2. Quand tu mets en parallèle l'effectif avec un petit peu l'historique de ces joueurs-là, ce qu'ils ont fait à la fois en sélection et puis précédemment dans leur club, les résultats européens par rapport à d'autres équipes, c'est, tu vois, genre pareil, Wadji, leur attaquant, je le connais pas spécialement, le Sénégalais, mais qui a 4 buts en 5 titularisations. Bon, c'est un mec qui, la saison précédente, avait mis 8 buts en Norvège. C'est-à-dire, ça situe un peu le niveau des mecs. C'est pas une équipe qui est aussi forte que Rennes ou autre. Maintenant, faut pas imaginer que tu vas jouer Metz, quoi.
Oui, ça doit être entre les deux.
Oui, c'est ça. Je pense sincèrement que c'est, ouais, ça vaut. Ouais, j'allais dire, en fait, c'était une équipe, mais en ce moment, en Ligue 1, entre le 5e et le 15e, il n'y a pas grand chose niveau points. Mais je pense que c'est à peu près du niveau du Montpellier des 3-4 dernières années, par exemple. Quoi.
Ouais. Je regardais les feuilles de... Pardon, Flo, après je te laisse enchaîner. Je regardais les feuilles de match de Karabakh. Moi, je ne connais aucun joueur à part Abdelaz Oubir, dont tu as parlé, Christophe. Et par contre, sur le, je ne savais pas que merci pour l'ambulance. Je ne savais pas que Thomas Ubochan jouait à Nicosie. Donc voilà, je vous le donne. Thomas Ubochan jouait à Nicosie. Et c'est là. Et Eric Botteac également. Voilà, vous avez deux.
Ça, je le savais, puisque c'est un ancien Lillois et qu'il fait de temps en temps partie de la watch des Nordistes.
Flo.
Non, oui, je voulais juste dire que Marseille sera bien inspiré de plier ça au match aller. Voilà, je pense que c'est le seul moment où tu peux avoir une mauvaise surprise si tu n'arrives pas à prendre un écart, même de deux buts, hein, au match aller, histoire de pouvoir négocier ce long trajet. Puisque cette année, par exemple, ils n'ont pas perdu chez eux en Champions. Bon, après l'an dernier, ils se sont fait balader sur tous les matchs. Et ils ont perdu deux matchs chez eux, face à Villarreal et au Sivasspor, si j'ai bien suivi. Mais tu vois, cette année, par exemple, ils ont réussi à accrocher balle au premier match, quoi. Un petit 0-0 à domicile avant de perdre. Donc, pour Marseille, je pense que la clé, ça va être de plier ça dès le match aller et ensuite de faire ce long voyage et d'essayer de perdre le moins de plumes possible. Pardon.
Toi qui ne prends pas de billets, mais qui cite souvent 538, est-ce que tu peux nous donner les évaluations des 538? Qui est favori selon eux? Alors, pour cette compétition qui vit sa première édition, il faut le rappeler, donc ce sera déjà un vainqueur très important.
Déjà sur Marseille-Karabag, ça donne 84% de chance à Marseille pour passer. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Sachant que les autres équipes au niveau des 16e de finale qui ont le plus de chances de passer, ça donne 90% de chance à Leicester et 78% au PSV face au Maccabi Tel Aviv, et donc Leicester face à Randers, club danois, il me semble.
Oui.
Mais du coup, pour la victoire finale, bah, je vais vous faire deviner. Il y a 5 équipes qui sont à 11% de chance.
Rennes.
Enfin, 38. Oui, Rennes est dedans, puisque Rennes était favori il y a quelques jours.
Ouais, ça, je savais.
Le Leicester.
Ça a été rebattu par le tirage. Leicester, oui, 11% aussi.
Le PSV. Le PSV.
Ça en fait 3.
La Roma.
Ça en fait 4. Il en reste un. Est-ce que vous allez faire le grand chelem?
Marseille?
Non. Marseille est à 6%, la cinquième équipe est dans les déjà qualifiés.
Je me rappelle pas des déjà qualifiés, c'est ça.
C'est pas de réfléchir.
Y a qui déjà en Ligue Europa Conférence?
C'est pas un club, non, c'est pas l'Union Berlin, non, je pense pas.
Non. On est sur un club d'un pays qui a déjà été cité. Enfin de.
C'est compliqué ça.
Sur les quatre pays que vous avez cités, c'est un collègue de championnat d'une des quatre autres équipes, à part Rennes. Donc soit un italien,
non, pas West Ham.
Feyenoord?
Oui, Feyenoord, ouais, qui a 11%. Et sachant que le sixième, c'est Alkmaar qui a 8%.
Alkmaar qui a battu l'Ajax ce week-end, donc ça, je pense que ça a fait monter leur cote.
Ouais, c'est possible. Et donc, comme je vous disais, Marseille est à 6%. Et derrière, t'as le Slavia à 4%. Enfin, on tombe assez bas. Mais voilà, selon eux, entre le PSV, Rennes, la Roma, Feyenoord et Leicester, il y a une chance sur deux d'avoir une de ces équipes vainqueur à la fin.
Mais à l'heure actuelle. Les sporkles à venir sur les participants de la première édition de la Ligue Europa Conférence vont être fous.
Parce que imagine sur les effectifs.
Non, les effectifs, c'est impossible. Tu connais pas les joueurs. C'est des joueurs générés par un ordinateur. Mais il y a Alashkert, Anorthosis, Flora, Zoria, Jablonek, Slovan Bratislava, Lincoln FC, Mura, Kairat.
Mura, on s'en souviendra peut-être. Parce
après Mura, ouais, ils ont joué Rennes. Ouais.
Quel pourcentage de ces clubs-là est en faillite dans les 10 ans, tu vois?
Sachant qu'en plus, Karabag, si on te fait deviner la ville, c'est impossible. Puisque la ville liée à Karabag, c'est Agdam, mais c'est une ville fantôme. Une ville qui n'existe plus, donc il joue à Bakou. Mais oui, c'est pas facile. À noter, juste comme ça, je parlais de l'Ajax. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on disait. Mais l'Ajax est deuxième du championnat, mais avec une différence de but de plus 45. ils ont marqué 49 buts, ils en ont pris 4, dont 2 face à l'AZ Alkmaar. Donc ils ne sont pourtant pas premiers, et ils sont même ex-aequo avec le Feyenoord à 36 points, et le PSV est à 37. Donc on est vraiment sur une mauvaise gestion des matchs, puisque normalement, quand t'es à plus 45, t'es pas censé avoir fait 3 nuls et 2 défaites.
Finale de la Ligue Europa Conférence, le 25 mai, à Tirana.
En Albanie, oui.
Franchement, j'espère vraiment qu'un club français va faire quelque chose. Je crois plus en Rennes qu'en Marseille, mais ce serait cool quand même de voir les Français aller loin dans cette compète qui est à leur portée.
Après, le truc, c'est que là encore, on parlait des clubs italiens avec la Ligue Europa et est-ce qu'ils vont la jouer à fond pour l'Atalanta et pour Naples. Je pense que pour Marseille et Rennes, la course au podium, ça va forcément entrer en ligne de compte.
Après, Rennes, malheureusement. Tu vois, je veux bien, mais si tu gagnes la première Ligue Europa, tu gagnes la Ligue Europa quand t'es Rennes. Je préfère gagner la Ligue Europa et refaire la Ligue Europa une fois qu'aller en Ligue des Champions et perdre
Ligue Europa conférence, fais attention.
Oui, conférence. Oui. La conférence, je vais l'appeler la conférence. Je préfère gagner la conférence et finir quatrième que sortir en quart et faire troisième de Ligue 1.
Après, le seul truc, oui, c'est oui. que vu... Alors, on va pas non plus mésestimer tout le monde. Genre Bodø/Glimt, ils en ont mis 6 à la Roma. C'est une vraie bonne équipe depuis 2-3 ans. Mais t'es quand même sur une adversité qui peut te permettre de passer, même en t'en foutant au moins un ou deux tours, et du coup de te retrouver en quart et de dire bon, on joue sérieux. C'est-à-dire que vraiment, il y a quand même, genre la Karabag, voilà, on a quand même replacé un peu les résultats de cette équipe. Malgré tout, Marseille peut mettre une équipe bis et sachant passer sans trop de frayeur, quoi.
En plus, Rennes et Marseille peuvent pas se jouer en 8e, donc ça te protège un petit peu.
C'est ça, franchement, il y a la Roma qui
est. Il y a encore cette protection-là
Oui, en 8e, ouais.
Ok, d'accord.
Je veux dire, franchement, l'équipe B de la Roma. Elle va être chiante à jouer. Tottenham, si Tottenham revient, voilà. Leicester, l'équipe B à base de Patson Daka, ça peut être chiant. Maintenant, le reste, t'as pas forcément de complexe à faire, quoi. Le PSV sera difficile et je pense que eux peuvent la jouer sérieusement. Historiquement, c'est quand même un club qui aime bien les joutes européennes, mais bon.
Après, tu dis ça peut être chiant, mais en fait là, le ça peut être chiant à cette échelle de compétition, c'est 50-50 au coup d'envoi.
Oui, c'est ça, c'est pas ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les Chelsea. Ou...
Ouais, voilà.
Donc, oui, clairement, je veux dire, en Ligue Europa, t'as les Real Sociedad, Leipzig, Atalanta qui traînent. Là, honnêtement, sur le papier, l'équipe peut-être la mieux armée, c'est peut-être la Roma.
Et, sachant que la Roma aura peut-être changé de coach d'ici là, hein, parce que bon, c'est pas non plus le feu à la Roma. Et, vu que Mourinho a l'air déjà d'être énervé comme si c'était sa troisième saison là-bas.
Et ses résultats sont comme si c'est la troisième saison. Ouais, la troisième saison, là-bas, ils sont huitième.
À Tottenham, c'était pareil. Ça commence à devenir un peu le cas partout pour José. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du tirage au sort des trois compétitions. Alors, il y a toujours le doute Tottenham-Vitesse Arnhem, qui officiellement n'est pas levé. Mais bon, on attendra. Parce que par contre, si Tottenham est dans la compète et qu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat en février-mars, ou qu'ils sont très loin, là, ils peuvent. Ça peut être vraiment l'épouvantail de la compète. Je pense qu'un Harry Kane en Ligue Europa Conférence, s'il est concentré, il en met 2 ou 3 par match. Qu'on verra. Passons au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris qui vont pas forcément concerner des matchs très proches, puisque c'est la Coupe de France qui attend le football français bientôt. Alors, sur quoi êtes-vous parti, vous, Christophe? Bien, Christophe, tu es parti sur la Coupe de France, et ça va te permettre de parler d'une équipe nordiste qui est sortie de l'actualité depuis quelques années, puisqu'elle joue dans un stade beaucoup trop grand pour ses performances sportives, et qu'elle n'occupe plus grand monde maintenant dans les médias, mais c'est le VAFC.
Oui, même si moi, en bossant à la Voix du Nord et en relisant les articles de la Voix des Sports chaque semaine, ça l'est quand même dans mon actualité personnelle, tout en sachant qu'elle n'est pas dans l'actualité. Enfin voilà, on est quand même conscient du fait qu'on relit ça, mais que tout le monde s'en tape un petit peu à l'échelle nationale. Mais donc oui, Valenciennes-Strasbourg, Dame Coupe, qui a mis ses plus beaux habits, je vais être au match, je crois qu'on annonce, parce que je bosse pour l'AFP sur ce match-là, je suis ravi, il y aura également Julien Momon, mais qui lui va, voilà, comme ça, je pense qu'il écrira un truc de son côté, mais pas envoyé par un média, mais donc ce palpitant Valenciennes-Strasbourg, Valenciennes qui, comme tu le dis, voilà, des intérêts un peu populaires, comme je disais, ça annonce quelques milliers de personnes seulement au stade, Valenciennes 17e du classement en Ligue 2, après 18 journées, une différence de but de moins 12, qui est l'avant-dernière du championnat. 20 points, soit un point de plus que Bastia, qui est barragiste. Bon, après, il y a Dunkerque et Nancy, les relégables, qui sont un peu plus loin, mais tout ça pour dire que c'est un petit peu compliqué. Olivier Guégan, le coach, a été licencié. Il a été remplacé par Christophe Dalmotte, qui est un nom qui parlera aux gens qui ont connu cette époque-là.
Mais qu'on ne savait pas entraîneur, Christophe Dalmotte, d'ailleurs. Est-ce qu'il entraînait avant d'arriver à Valenciennes?
Il était adjoint, en fait.
D'accord.
Moi, pareil, je savais qu'il était entraîneur parce qu'il était dans le staff, mais c'est un adjoint de longue date, en fait. Il a été adjoint de pas mal de staff. Je crois qu'il était adjoint au Havre aussi. Je l'ai eu il y a une semaine, je l'ai totalement oublié. Mais bon, voilà, ça pour dire que il a ses diplômes et c'est son premier vrai poste. L'équipe de Valenciennes, on a quelques noms, alors qu'il, moi, me parle pas forcément à tout le monde, mais un nom qui parlera à tout le monde. Il y a Mathieu Debuchy, qui est là-bas aujourd'hui, pour ceux qui l'ont perdu de vue. Également Baptiste Guillaume, un des transferts les plus étonnants de l'histoire du LOSC. Et donc, cette équipe de Valenciennes reçoit Strasbourg et mon pari, après toute cette introduction, c'est pour dire que Strasbourg va se qualifier, va gagner, dans le temps réglementaire, parce qu'ensuite, il n'y a pas de prolong, ça va directement au tir au but. C'est coté à 2. pour un raisonnement assez simple, qui est que je pense que le 17e de Ligue 2, qui n'a rien à foutre de la Coupe de France parce qu'il joue son maintien, sur un match du jeudi soir, n'a pas beaucoup de chance face à une équipe de Strasbourg qui va peut-être s'en foutre aussi, mais peut-être pas autant, et qui est beaucoup plus doué, qui a un meilleur banc, etc. Donc là, je suis vraiment sur le côté... La motivation du petit ne peut pas effacer l'écart théorique avec le gros, parce que je suis même pas sûr que le petit soit plus motivé que le gros. Cote à 2 pour une équipe bien classée en Ligue 1 face à une équipe mal classée en Ligue 2, ça me semble quand même assez intéressant.
Non, je pense que, à mon avis, Strasbourg et Stéphane auront très envie de jouer la Coupe de France.
Parce que oui, c'est ça.
Strasbourg, c'est une belle compète, et Stéphane est le dernier coach depuis 2014 à avoir pris une Coupe de France au PSG. Avant ça, c'était le Guingamp de Jlajos Gourvenec contre Rennes déjà, qui avait gagné. Et avant ça, c'était Bordeaux contre Evian Thonon-Gaillard. Et ça, je pense que Flo s'en souvient. La finale de Coupe de France avec Francis Gillot en 2013. Victor 3-2. Voilà. Bon, on va continuer à parler avec Christophe, parce que lui, il a encore un pari sur la Coupe de France.
Oui, Dame Coupe.
C'est Lille Auxerre. Séduire. Tu restes dans le Nord.
Absolument. Lille Auxerre, où là, je pense que je n'irai pas, mais où Julien Momont ira, car Julien Momont va toujours au stade. Là, pour le coup, je pense que les deux équipes s'en foutent. Après, quand je dis s'en foutent, tu fais pas non plus exprès de balancer. D'ailleurs, certains, je pense, bluffent un peu. C'est-à-dire que Lens joue Poitiers. Le président de Poitiers a dit qu'ils s'en foutaient complètement de la Coupe de France et que ce qu'ils voulaient, c'était monter en N2. Si je me trompe pas sur la division de Poitiers. Donc bon, il y a aussi parfois des trucs de communication. Là, du côté d'Auxerre, la volonté est quand même de monter en Ligue 1. Et du côté de Lille, encore une fois, quand je dis qu'ils s'en foutent, c'est-à-dire que s'ils peuvent gagner le match, ils le feront. Mais je pense que ça devient intéressant quand t'arrives en 8e, quoi.
Puis ils sont déjà pas très motivés contre la deuxième partie de tableau en Ligue 1.
C'est ça. Et si tu fais tourner, et je pense qu'à un moment tu seras obligé de faire tourner, parce que derrière t'as un gros match contre Bordeaux. Enfin, match un peu. Alors, match charnière, c'est un peu bidon, parce que dans le classement comme ça, t'as toujours des matchs charnières. Mais je pense vraiment que ça sera un match qui peut te faire basculer avant la trêve dans la bonne partie du classement. Donc du coup, Lille va surtout se focaliser là-dessus. Et je pense que la deuxième équipe, la deuxième escouade lilloise n'est quand même pas d'un niveau incroyable. D'ailleurs, on la voit assez peu sur le terrain. Donc je me dis que ça peut un peu se payer, que le fait que Lille fasse tourner. Donc je vois un match nul. Parce que je vois pas non plus Auxerre faire une perf incroyable. Alors après, ça ira au tir au but. Dans mon scénario, on verra ce qui se passe. Mais le nul, c'est à 4,70. Et c'est vraiment très bien coté. Honnêtement, j'ai un peu peur que ce tour de Coupe de France, il y ait pas mal de 0-0, de vieux 1 partout, des matchs pas palpitants. En plus, Lille, ça sera sur leur pelouse qui est absolument ignoble. Je sais pas si t'as vu le match face à Lyon en détail, mais la pelouse, c'est vraiment de pire en pire.
On appelle ça un terrain, pas une pelouse.
C'est un lieu, c'est un champ.
C'est une bande de terre qui était disponible pour le match entre Lille et Lyon.
Ouais, non, c'est terrible, Anthony Lopez qui se cassait la gueule.
Mais c'est quoi, c'est une question financière, c'est que c'est la mairie ou la ville qui s'en occupe, qu'est-ce qui se passe?
En gros, ça leur coûterait plus d'un million de la changer. Et quand c'est avant une finale de coupe ou avant un euro organisé sur place, bah c'est la Ligue ou la Fédé, voilà, qui peuvent prendre ça en charge. Là, c'est au club de payer, et le club n'a pas envie de payer. Le club ne paye déjà pas, enfin, a déjà gelé des prestations pour les agents. Alors, t'imagines bien que payer une pelouse, c'est pas... S'ils peuvent s'en passer dans la situation actuelle, ils le font. Je pense qu'à un moment, ils sont peut-être mis devant le fait accompli, parce que là, c'est quand même un peu compliqué de jouer au foot en ce moment. Mais là, après avoir déjà joué ce dimanche, rejoué le vendredi, je crois que c'est, je ne sais même plus où, le samedi, sur une pelouse assez dégueulasse. En plus, je pense que ça va pas favorisé le beau jeu. Limite, ça va peut-être même plus embêter au cercle Lille, à voir.
Ça va peut-être embêter Chelsea aussi dans 2 mois.
Oui, si tu la changes pas du tout, ouais, ça peut être une stratégie, comme le mec qui s'est poussé les herbes, genre Giroud qui tondait pas la pelouse. Mais voilà, mon pari, match nul entre Lille et Auxerre, et une qualif qui se joue au tir au but, c'est à 4,70.
Merci Christophe. Au tour du Flo de nous parler de ces deux paris, et lui, la Coupe de France, ça ne l'intéresse pas. Il part directement sur la Ligue 1 du 22 décembre, puisque c'est le multiplex pour la dernière journée avant la trêve.
C'est ça.
Vas-y Flo, t'as OM Reims et Saint-Étienne-Nantes.
Ouais, OM Reims, bon, pari assez logique, et peut-être un peu trop logique, puisque la dernière fois qu'on aurait pu faire un pari de ce genre, c'était sur Marseille-Brest, et Brest a finalement gagné face à l'OM. Mais OM-Reims, bon, Reims c'est quand même une équipe qui a du mal à attaquer depuis le début de la saison. Je pense que c'est une des plus mauvaises attaques du championnat, même s'il y a eu du mieux récemment, et qu'ils ont quand même un très bon attaquant, un joueur très prometteur avec Hugo Ekitike, que personnellement j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Reims, en termes de production offensive, ils sont 15e ou 16e du championnat. Et sur les expected goals, et Marseille a aujourd'hui, encore une fois, une des meilleures défenses du championnat, si ce n'est pas la meilleure, c'est même la meilleure défense du championnat, à la fois en but encaissé et en expected goals concédés, ou non, pas tout à fait en expected goals concédés, mais bon, bref, toujours est-il qu'ils ont une bonne défense, donc bah, l'idée est assez simple, c'est de partir sur une victoire de l'OM pour finir cette phase aller sans encaisser de but. Voilà, la cote est à 2,35. Et elle me paraît, alors que revoilà Christophe, pour les gens qui ont la vidéo, elle me paraît plutôt intéressante à 2,35. Je pensais pas qu'elle serait vraiment au-dessus de 2, donc je la prends aussi pour ça. Et je me dis que, vu le regain de forme des Marseillais pour finir cette année de la meilleure des façons, ça serait un petit peu ballot de gâcher ça par une contre-performance contre Reims, donc une victoire sans encaisser de but. Côté à 2,35, ça me paraît plutôt intéressant pour l'OM pour finir.
Merci Flo pour ce premier pari. Le deuxième, donc, c'est un match capital pour le Saint-Etienne de Pascal Duprat, qui sera en pause d'ici là, normalement.
Oui, c'est vrai. A priori, qui sera en pause d'ici là, et ça sera face au Nantes d'Antoine Comboiré. Un duel de coach qui flambonne le début des années, ou le milieu des années 2010, on va dire plutôt. Et surtout, deux équipes qui ouvre quand même pas mal le jeu. Hein. Alors Saint-Etienne, c'est parce qu'ils peuvent pas vraiment le fermer pour l'instant. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer Pascal Duprat trouver des solutions en l'espace de quelques jours. Mais c'est vrai que Nantes est quand même une équipe très plaisante à voir jouer. Pour son côté, justement, bah, qui calcule pas forcément ce qui se passe. S'ils sont capables de renverser une situation face à Lens, de faire un 2-2, de faire 2-2 face à Strasbourg avec pas mal d'occasions des deux côtés. Donc je pense que face à Saint-Etienne, tu peux avoir un match assez ouvert. Et du coup, une équipe de Nantes qui peut faire pas mal de dégâts, je pense, en transition face à une AS Saint-Etienne qui sera pas forcément prête à faire face. Donc je pars sur un match à but. Et je pars sur plus de 3,5 buts marqués dans le match. Donc c'est coté à 3,30. Et donc j'imagine des buts des deux côtés, hein, des Stéphanois capables de faire la différence, mais des Nantais aussi, un petit 2-2, un petit 3-1, quelque chose comme ça. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, un match à but pour finir l'année à Geoffroy Guichard.
Ok, bah merci Flo pour ce dernier pari. Ce dernier pari de 2021, puisqu'on se retrouvera la prochaine fois à l'occasion des 8e de finale de la Ligue des Champions et les 16e de Ligue Europa. Les barrages, on pourra en parler, même si les clubs français ne sont pas concernés par ces barrages-là. L'OM est concerné en Ligue Europa Conférence, enfin, à ne pas confondre. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes, parce qu'on ne sera pas là d'ici là. Mais on sera sur Cop Arena, et vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur l'application ou le site, où on continue à débriefer notamment la Ligue 1 à travers les grandes affiches et plein d'autres choses. On vous laisse découvrir ça sur coparena.com. Merci à Flo et à Christophe pour leur belle année 2021, et on espère faire encore mieux en 2022. Ciao.
Salut.
Cordialement, bonne fête.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.